signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme la trêve des confiseurs permet de se dégager un peu de l'actualité, on va en profiter cette semaine pour essayer d'aborder quelques questions de fond autour de la littérature ou de ce qu'il en reste en ce début du XXIe siècle. Si la perspective d'un monde sans culture qu'offre la pandémie aujourd'hui est bien réelle, elle se présente pour la littérature de fiction en particulier de manière paradoxale. Dans les années 90, il allait de soi pour tous les écrivains en France surtout que dans un monde globalisé, plus rien ne pouvait arriver. Baudrillard et Debord à gauche, Philippe Meret à droite, tout le monde pensait plus ou moins que le capitalisme tardif avait imposé partout le règne de la fête, de l'homo festivus et de l'absence de passion. Les écrivains français constataient avec une sorte de joie que leur impuissance reflétait celle de l'époque. Et puis sont arrivés le 11 septembre 2001, la montée en puissance d'Internet, les révolutions technobiologiques, l'explosion de l'information et de la désinformation et des techniques de surveillance, le retour des passions violentes avec l'irruption des populismes islamistes et occidentaux, la chute de l'Amérique, la montée de la Chine, bref, jusqu'à la pandémie et le confinement actuel, qui font presque office de métaphore d'un temps de catastrophe généralisée, à la fois suspendue et en accélération croissante. Et nous voilà passés d'un monde déréalisé où tout semblait prévisible et où plus rien n'avait de sens, à un monde ultra réaliste où tout semble avoir des conséquences, mais où plus rien n'est vraiment prévisible. Comment écrire de la fiction dans ces conditions et quoi écrire ? C'est sur quoi on va essayer de réfléchir aujourd'hui avec Charles Danzig. Charles Danzig, bonjour.
Bonjour Marc-Étienne.
Vous êtes, alors les auditeurs de France Culture vous connaissent, puisque vous animez tous les dimanches Personnages en personne à 16h30. Vous êtes aussi évidemment écrivain et éditeur, l'auteur de plusieurs romans, dont Nos vies hâtives, Je m'appelle François, Histoire de l'amour et de la haine. Vous avez écrit plusieurs essais, dont le dictionnaire égoïste de la langue française, et puis tout plus récemment le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. Je passe sur tous les prix que vous avez, il y en a beaucoup, je passe
tellement
dessus globalement. Vous êtes aussi éditeur des Cahiers Rouges chez Grasset et d'une revue qui s'appelle Courage, dont le numéro 6, c'est le numéro 6, hein, je crois, est sorti cet automne, c'est les 20 premières années du 21e siècle, vues par 20 écrivains, après Littérature 2015, Âge d'or, Âge de fer, Minorité supérieure et Les salauds, qui sont les titres respectifs des 5 premiers numéros. Et puis Orphée, retourne-toi. Alors c'est de cette revue qu'on va partir, de ce numéro en particulier, et d'un article que vous aviez écrit d'abord dans Le Monde en 2012 sur le populisme, qui n'est pas la base de la revue, mais qui alimente quand même une certaine réflexion. Vous écriviez, vous essayez de réfléchir à la fois sur le populisme en politique qui montait à ce moment-là, et puis sur le populisme en littérature.
Oui, en effet. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit cette tribune dans Le Monde en 2012, le mot populisme était beaucoup moins répandu que maintenant. Maintenant, c'est un lieu commun que le populisme est là. Et d'ailleurs, je me suis fait quereller pour l'avoir employé en matière de littérature. Et je pense qu'il existe. Je pense que le populisme en littérature s'est manifesté. D'ailleurs, je pense que les populismes se manifestent d'abord en matière esthétique avant de se manifester en matière politique. Mmh. Il me semble ça. Ça a toujours été comme ça parce que les écrivains tentent des choses et parfois pas toujours fastes. Et donc, ça s'est passé comme ça pour la littérature et ça s'est manifesté de différentes façons, mais une des façons que je relevais, c'était tout d'un coup l'attention exclusive au sujet, où tout d'un coup la fiction devait être absolument soumise au sujet, et je trouve ça parfois douteux, dans la mesure où elle abandonnait tout souci de forme. Moi, je pense que la littérature dit des choses parce qu'elle est une forme, sinon rien ne la distingue des autres formes d'écrit.
Mmh, mmh. Donc, vous voulez dire qu'il y avait une dérive quoi, journalistique de la littérature ?
Pire que journalistique, je ne veux pas dire du mal du journalisme d'ailleurs, car le journalisme, au fond, est une méthode différente. La différence, c'est que le journalisme est appliqué sur le moment à des sujets qu'on lui impose. Et parce qu'il est soumis à l'actualité, à ce qui se passe, et il va enquêter là-dessus. La littérature, au contraire, se choisit ses sujets. Et quand elle se met à suivre les sujets de tout le monde, c'est là qu'elle rentre dans des avenues battues, rebattues, et qu'elle dit ce que tout le monde dit. Et il y entre une forme de démagogie. Quand on choisit des sujets qui plaisent, et ben les sujets qui plaisent, évidemment, c'est pas nécessairement les sujets les plus fins ou les plus intéressants, parce que moi je crois que la littérature sert à révéler les secrets que la vie se cache. La littérature, c'est une chose contre le secret. Mmh. Et évidemment, le populisme veut le secret puisque lui, il fonctionne autrement. Le populisme croit au complot. Le complot, c'est un faux secret et il détourne l'attention vers des complots. La littérature est une chose absolument contre les secrets parce que les secrets sont une forme de puissance obscure. Si je peux vous donner un exemple, par exemple. La littérature a mis beaucoup de temps. Parfois, les choses sont cachées pendant très longtemps. La littérature a, pour la première fois, révélé ce qu'était le handicap mental par un personnage de handicapé mental. Il y en a, évidemment, depuis la naissance de l'humanité, des handicapés mentaux. On aurait pu avoir des personnages de handicapés mentaux depuis excessivement longtemps. Eh bien, le premier qui ait montré ça et qui l'ait révélé au monde par un personnage de fiction, c'était William Faulkner, dans Le bruit et la fureur. Mm-hmm. Le personnage de Benji, c'est une chose énorme. Et la littérature fonctionne comme ça, par espèce de captation de choses dont on ne veut pas parler et qu'elle va chercher. Et c'est en général des révélations de chose minoritaire dont tout le monde se fiche parce que la société peut très bien fonctionner sans ça.
Vous parliez dans votre article 2012 des bienveillantes, en particulier le roman, oui. Dont vous disiez qu'il était un symptôme, un déclencheur, quelque chose qui a fait sauter une digue.
Oui, je pense. Écoutez, ça a cessé d'être un roman. C'est un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Vous et moi savons qu'un livre de littérature, quand il se vend à 10 000 exemplaires de nos jours, c'est un grand succès. Donc, un livre qui se vend à 1 million d'exemplaires cesse d'être de la littérature pour devenir un symptôme. C'est un peu comme les livres de Houellebecq qui ne sont pas de la littérature, mais des symptômes.
Ça se discute, ça, quand même.
Bon, mais je dirais ça de Jean-Jacques Rousseau aussi. Oui, je pense que Jean-Jacques Rousseau était plus un symptôme qu'un écrivain. C'est pour ça d'ailleurs que tout d'un coup il a explosé.
Ah bon ? Ah d'accord. Okay.
Parce que je pense qu'il a explosé parce qu'il a tout d'un coup capté quelque chose qui était dans l'air du temps et qui était l'expression d'un moi qu'on n'osait pas exprimer, d'une enfance qui n'existait pas jusqu'à lui. Et donc, c'est pas tellement le génie littéraire de Rousseau qui l'a fait connaître, c'est justement ce côté symptomatique.
Oui, mais là, n'empêche pas forcément l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être... le génie littéraire est susceptible, à un moment donné, de capter l'air du temps et de le mettre en forme.
Je suis pas peut-être, je n'en suis pas sûr. Il va pas tellement chercher l'air du temps, il va chercher le courant d'air qui est derrière, plutôt, justement.
Oui, mais il arrive que ça coïncide.
Ça peut coïncider, mettons. Mais en tout cas, ce qu'il y avait avec les bienveillantes, c'était 1 million d'exemplaires, donc ça voulait dire que c'était acheté par des gens que la littérature n'intéresse pas. Il n'y a pas 1 million de gens qui s'intéressent à un roman. Oui. Donc, pourquoi ont-ils acheté ce livre, sinon pour une espèce de complaisance de sujets qu'il y avait dans ce livre, d'espèce de barbotage dans des choses un peu douteuses, d'espèces de complaisance nazie comme ça, évidemment sous le couvert de la fiction ça pouvait passer, mais enfin c'était tout de même très étrange et c'était la première fois que ça arrivait dans la fiction française. Au fond, on peut même pas parler de Céline, parce que Céline c'était autre chose. D'abord, au fond, il n'a pas eu de personnage de fiction nazi ni quoi que ce soit. Il a écrit des pamphlets, c'est autre chose, et ses horreurs ont été écrites sous forme de récits. Et donc, tout d'un coup, on ouvrait la porte à une violence, à quelque chose qui permettait, sous le couvert de fiction, de dire des choses qui étaient indicibles jusque-là, je pense.
Mmh. Et vous dites la même chose de Houellebecq, si j'ai bien compris.
Je pense, oui.
Ouais. Je pense. Ouais. Je serais moins sévère, surtout avec les premiers Houellebecq. Il me semble qu'il y a quand même chez Houellebecq chez Céline aussi d'ailleurs, parce que vous attaquez à Céline dans votre article de 2012. Il y a quand même un côté, on est quand même dans certains de leurs livres, l'un comme à l'autre, on est quand même dans la littérature, il me semble, même s'ils sont dans l'air du temps. C'est-à-dire, si on vous suit jusqu'au bout, c'est le succès est presque forcément une trahison de la littérature, ou bien?
Non, pas du tout. Je disais là qu'une énorme quantité de ventes de livres est le signe d'autre chose que la littérature. Oui, c'est tout ce que je dis. D'ailleurs, non, ce que je reproche à Céline, et depuis toujours, et je suis poursuivi par les Céliniens pour ça, au fond, je lui reproche pas d'être antisémite et néo-nazi. D'une certaine façon, c'est tellement évident qu'on s'en fiche. C'est pas ça le point essentiel. Là où je fais des reproches à Céline, c'est d'un point de vue de forme littéraire. C'est-à-dire qu'il y a une imposture littéraire dans, si vous voulez, quand on dit, quand on répète, d'ailleurs, répétant une phrase de l'Action française et de Léon Daudet depuis 100 ans, quand on dit, il y a deux grands écrivains au XXe siècle en France, c'est Céline et Proust, c'est faire une injure à l'art littéraire de Marcel Proust. Céline a des moyens littéraires assez rudimentaires qu'il emploie parfois de manière géniale parce qu'il a un sens comique. Évident, c'est pour moi, si on me disait Céline est un écrivain exagéré, comique, une espèce de Rabelais un peu facho, mais pas du premier rang, je dirais tout à fait. L'égaler à Marcel Proust, c'est quand même assez extravagant. Et d'ailleurs, lui-même, tous les procédés littéraires qu'il prétend avoir mis en place. Par exemple, il y a un livre de lui qui s'appelle « Les entretiens avec le professeur Y », qui est une conversation à côté de l'ancienne Bibliothèque nationale, où il se vante, comme vous savez, il n'était pas sans vantardise, d'avoir inventé un système de ponctuation, des points d'exclamation avec les points de suspension, etc. C'est absolument une imposture. Ce système de ponctuation a été inventé par Jules Laforgue, qu'il a probablement lu quand il était jeune. Et donc, évidemment, ce qui exaspère les Céliniens, c'est qu'on leur dit que littérairement, leur grand homme, c'est peut-être pas tout à fait ça.
Alors, le point central dans votre article de 2012, après, on va dire à la revue, c'est le réalisme. C'est que vous attaquez essentiellement au réalisme.
Mais je crois que le réalisme est une féerie qui s'ignore. C'est-à-dire que le réalisme est un parti pris comme un autre. Quand vous regardez les grands écrivains réalistes de la France, ce sont des écrivains féeriques. Balzac, qui est le premier d'entre eux, Balzac, par exemple, il y a une chose extraordinaire. Le réalisme est supposé, dans l'absolu, nous montrer tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle le réel. Très bien. Balzac est supposé être le parangon de ça au XIXe siècle. Or, Balzac, qui a créé 3000 personnages, comme on sait, il l'a lui-même écrit. Déjà, 3000 personnages par rapport au réel, qu'est-ce que c'est? Donc, l'équivalent du réel, ça ne peut pas exister à la littérature. Il y avait 30 millions de Français, il a écrit 3000 personnages. Et d'autre part, la supposée description du réel par Balzac est tout à fait fictive. Par exemple, Balzac parle d'infiniment de choses, mais il oublie une chose essentielle de la société de son temps qu'on ne trouve dans aucun de ses romans, et qui était essentielle politiquement, qu'on retrouve en revanche chez Stendhal, c'est le phénomène des congrégations. Les congrégations, c'était des sociétés politiques appuyées sur l'Église, qui ont été financées par le régime de la Restauration, Louis XVIII et Charles X revenus, pour faire de la propagande réactionnaire dans tout le pays et ôter les racines révolutionnaires et éventuellement bonapartistes du pays. C'était une chose très importante. Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, c'était un élément essentiel du Rouge et le Noir. Donc, un réaliste comme Stendhal évite ça. Donc, il est évident qu'un réaliste est simplement quelqu'un qui choisit dans son préjugé ce qu'il veut montrer. Balzac était un écrivain de droite très bien, qui nous fait l'apologie de l'Ancien Régime et du droit d'aînesse. Et donc, le réalisme, au fond, n'existe pas. Et regardez d'ailleurs un autre exemple très frappant est Flaubert. Flaubert est supposé être un grand réaliste, mais en même temps, c'est l'homme qui a écrit Salammbô et qui a écrit Bouvard et Pécuchet, qu'on peut pas dire un roman réaliste.
Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, Flaubert était conscient de ça. Enfin, je pense bien que sûr. Madame Bovary ne cherche pas vraiment à être réaliste. Il est sciemment dans c'est l'imagination qui s'empare du réel pour en faire autre chose. En fait.
Oui, ben vous dites effectivement une chose importante. La littérature, c'est ça. C'est-à-dire, la littérature procède par une chose qu'elle est la seule à avoir par rapport à la philosophie, à la sociologie, au journalisme, à toutes les autres formes d'écrit. C'est l'imagination. Et l'imagination, c'est deux choses, à mon sens. C'est non pas la fantasmagorie, c'est pas l'imagination, c'est pas imaginer quelqu'un avec une trompe sur le front, trois oreilles et qui prend un vaisseau spatial. Pour moi, l'imagination est une déduction de ce qui peut le plus probablement se passer. C'est une déduction et qui procède, d'autre part, par image. Et c'est ce qui fait parfois la pérennité de la littérature, c'est qu'elle a ce côté somme toute archaïque de fonctionner comme les hommes préhistoriques par des images sur des parois. Mais le rapprochement de deux images qui jusque-là n'étaient pas rapprochées, que moi j'appelle l'imagination, fait parfois un éclat et permet de voir des choses. Et ça, la littérature, à mon sens, est la seule qui dispose de ça.
Je pense. Alors, c'est justement le problème d'aujourd'hui, c'est que on est rentré dans un monde où c'est-à-dire le réel du monde un réel bizarre, presque impossible à nommer, a fait une offensive très sérieuse. Il est en train de devenir très difficile pour l'imagination de s'emparer d'un monde qui est pratiquement impossible à décrire aujourd'hui.
Oui, c'est un monde, enfin, compliqué à décrire parce qu'il est multiple et agité en permanence. C'est-à-dire que jusque, vous avez cité le 11 septembre, et c'est très probablement la date séminale où les temps ont changé. Pour une fois, l'année correspondait réellement au changement de siècle. Là, à partir de ce moment-là, tout d'un coup, une brutalité mouvante et perpétuelle s'est mise en place. Il me semble qu'auparavant, les choses se passaient de manière plus digérée, en quelque sorte, plus lente. Il y avait des crises une fois tous les 30 ans ou tous les 40 ans. Et là, il y a une crise par an énorme et qui rend effectivement la captation de ça très très compliquée. Ça correspond à une atomisation du monde après tout bien connue, c'est-à-dire que les hommes sont de plus en plus séparés, mais les événements sont de plus en plus séparés aussi et apparemment erratiques, donc il est très difficile de trouver un sens à ça.
Et séparés mais globaux, c'est
séparés paradoxe. Et globaux en effet. Falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. And a blood dim tide is loosed upon the world. Nothing is sacred. The ceremony sings. Innocence is drowned in anarchy. The best black conviction given some time to think. And the worst are full of passion without mercy.
Alors, Courage, qui est une revue, qui est un livre en fait. Oui. C'est une série de livres collectifs en réalité, c'est pas une revue.
Qui est annuel.
Qui est annuel. Voilà. Et donc il y a une exergue d'Henry James qui dit « La littérature est un jeu d'adresse, et adresse signifie courage, courage signifie honneur, et honneur signifie passion et vie ». C'est une phrase tirée de L'image dans le tapis.
C'est un peu pompeux, mais
ça engage au début.
Ça engage, c'est ça. Mais chaque numéro de la revue depuis 6 ans essaie d'avoir une citation d'un grand écrivain à propos de ce sujet du courage. Pour moi, je prends le courage pas dans le sens le déclin du courage, le fameux roman américain ou des notions un peu martiales comme ça. Je pense que le courage en matière de littérature, d'abord la littérature, c'est compliqué à faire. Ça rapporte plus de coups que de gloire en général. Et pour en faire, il faut du courage, il faut se battre contre des habitudes, contre des lieux communs, contre des populismes littéraires et parfois contre soi-même tout simplement aussi. Le courage, c'est d'aller contre ses habitudes. Et si vous voulez, le talent est une chose, mais le talent sans courage n'est rien, je pense.
Et comment vous avez choisi les écrivains d'abord qui ont participé à ce numéro, en particulier les 20 écrivains?
Eh bien, je l'ai choisi avec l'arbitraire le plus total, cher Marc.
Oui.
Étant donné que j'en ai choisi certains parce qu'ils avaient déjà publié dans la revue ou dans la collection, car à la revue est adossée une collection qui s'appelle Le Courage aussi, où j'ai publié certains des auteurs qui étaient choisis là, et je leur ai demandé de continuer à écrire dans la revue. certains avaient déjà écrit, Sandrine Trainer qui écrit dans ce numéro-ci, avait déjà publié dans les précédents numéros. Géraldine Koziak est une autrice que j'avais publiée et qui fait des livres où elle mélange des dessins très originaux, des dessins et du texte, avait été publié dans la collection. Donc ça s'est fait comme ça. Et je n'ai rien imposé. Mon idée de départ, c'était ça. C'était comment est-ce que les écrivains, des écrivains, 20 écrivains, puisque les deux décennies s'achèvent, pourraient chacun choisir dans une année l'événement qu'il voulait. Je n'ai rien imposé du tout. Chacun a choisi son événement.
C'est ça, il y a un écrivain par année.
Un écrivain par
entre
année.
Entre 2001 et aujourd'hui.
Année, voilà, c'est ça, entre 2001 et aujourd'hui. Et à chaque année, chaque auteur a choisi l'événement qui l'intéressait. Donc je n'ai rien choisi moi-même, j'ai simplement demandé à des écrivains et des autrices de me rejoindre, et ils ont choisi eux-mêmes. Et donc la tonalité d'ensemble s'est faite par leur choix. Moi je n'ai pas imposé, je n'ai pas dit je veux quelque chose sur ceci ou cela, ça s'est fait de manière tout à fait libre. Et donc il y a une tonalité d'ensemble probablement qui se dégage par ces choix. La première tonalité, je ne sais pas vous qui l'avez lu ce que vous en penserez, mais que ça n'est pas joyeux.
Non, mais il y a plus à dire que ça, parce que ce qui est intéressant, on parlait du temps tout à l'heure et du fait que depuis le début du siècle, le défi, c'est précisément ça, c'est qu'on a l'impression que le temps se rétracte, qu'il y a une accélération des événements, que c'est de moins en moins contrôlable, et que quelque chose est en train de se mettre en place, qui a une espèce de cohérence bizarre entre le terrorisme et la pandémie, par exemple, une espèce d'entrée dans un temps de l'urgence, qui est à la fois suspendu et en accélération constante, qui pose aux écrivains un défi particulier, parce que, comme le disait Proust, la littérature, c'est quand même le temps qu'il faut retrouver. Et ne serait-ce que le temps pour écrire. Et donc, comment inscrire un temps littéraire dans un temps qui devient à la fois paradoxal et figé. Et le plus intéressant des textes, un des plus intéressants paradoxalement pour moi, est le premier, celui de Patrick, alors vous allez me dire comment ça se prononce,
Patrick Rougiers,
qui est un écrivain belge établi en France, qui publie en fait dans Courage son texte s'appelle Rendez-vous avec le temps, précisément. Ouais, ouais, ouais. Et c'est en fait, au départ, c'est un journal, c'est simplement un journal qui tient, et un journal qui semble justement pas du tout en accointance avec le temps. C'est-à-dire, il parle de la mort de Louis-René Desforêts, ça commence comme ça, le 30 décembre 2000, où il précise qu'il s'agit justement d'une figure d'un autre temps. Il parle de son voyage à Budapest pour l'exposition des photographies de François-Marie Bagnier, vol dans le jet privé avec les Bettencourt, il parle d'un vernissage où il croise Pierre Berger, Roland Dumas, Davedi, d'un dîner chez le doyen, tout ça est...
Et même Gilbert Bécaud.
Donc tout ça est très mondain, presque dandy. Et puis finalement, on arrive comme ça sans se rendre compte au 11 septembre. Et ce qu'il en dit est intéressant pour plusieurs raisons. Il dit « Le monde s'effondre, les tours du World Trade Center s'écroulent. Je regarde tétanisé, incrédule, en me demandant où cela va s'arrêter. Personne ne comprend ce qui se passe. La succession des événements est incroyable. Et pour une fois, les journalistes commentent directement ce qu'ils voient. Le 21e siècle vient entrer dans l'histoire. » Il a ajouté, je pense, un commentaire à ce journal pour la publication de Courage, je crois. L'événement majeur de l'année 2001 a eu lieu le mardi 11 septembre. Personne ne l'a oublié. C'est lui que j'aurais dû traiter sous forme de fiction. Il cite aussi Borges, le temps est à lui-même sa propre fiction. Et il ajoute, l'actualité, si terrible soit-elle, est littéralement devenue un non-événement littéraire. Alors, cette phrase m'intéresse parce que, je suis pas du tout d'accord, mais deux, c'est la phrase la plus paradoxale du recueil. Et c'est dans ce hiatus entre l'événement et le désir de maintenir le non-événement dans son journal qu'il y a une espèce de tension que je trouve intéressante.
Oui, en effet. Alors, une seule chose qui n'est pas essentielle, mais enfin, Rougiers, c'était belge et il a pris la nationalité française. Il est devenu français, donc c'est un écrivain.
Oui, d'accord.
Ça n'est pas essentiel, mais ça, dans ce que vous dites, vous avez raison, il y a la multiplicité des événements et il y a aussi la multiplicité des paroles à côté de la littérature. C'est que moi, j'ai commencé à écrire comme vous à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et nous avions la télévision et encore pas la télévision câblée et la radio qui étaient déjà des choses de parole très nombreuses. Mais tout d'un coup, un événement comme le 11 septembre est parlé par des milliers d'autres voies que la voie littéraire. Quand, en 1753, je crois, a eu lieu le tremblement de terre de Lisbonne, qui était l'événement le plus colossal du XVIIIe siècle, parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts, le commentaire quasi immédiat qui a été fait, a été par Voltaire, sous forme d'un très long poème qui a d'ailleurs frappé l'Europe. Et ça, c'est une chose qui était possible en 1753 parce qu'il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas de journaux, la parole était tenue par les écrivains et l'interprétation était tenue par eux parce qu'ils étaient à peu près les seuls. Et puis tout ça a changé. Quand j'étais plus jeune, c'était déjà plus compliqué. Et maintenant, d'écrire et décider de faire un sens à partir des événements, ça devient compliqué parce qu'il y a simplement une concurrence considérable. Et ce que fait Rougerst dans son texte, à mon avis, c'est une prise de position un peu dandy et paradoxale sur le fait que l'événement est là et l'événement ne va pas s'imposer à moi. Et c'est pour ça que sa dernière phrase vous choque. Je pense qu'il est, comme tant d'écrivains, il croit plutôt à l'éternité qu'à l'actualité. Et donc il fait ce pari-là. Il pense que lui, la mort de Louis-René des Forêts est peut-être plus intéressante que de tours qui s'effondrent. Il le dit pas exactement comme ça, je schématise. Mais enfin, et je trouve pas mal que quelqu'un prenne cette position-là, justement, parce que si un écrivain ne prend pas cette position tranchée, qui a l'air paradoxale et dandy, personne ne la prendra, personne ne défendra la poésie, la littérature que Paul Valéry appelait pure et qui a bien le droit d'exister aussi, une littérature détachée. Après, on peut critiquer, on peut dire, c'est vraiment pas le moment de faire de la littérature détachée. Mais
c'est pas tellement ça, c'est que c'est le paradoxe, et surtout que ce texte figure en premier dans un numéro qui se veut justement ancré dans l'époque, puisque c'est le principe du numéro, les 20 premières années du XXIe siècle.
Oui, mais pourquoi il serait pas... Enfin, d'abord, c'est lui qui a choisi son sujet, encore une fois. Mais pourquoi il serait pas dans l'époque par sa position? Toute une époque ne veut pas dire une uniformité de prise de position. Vous avez cité Marcel Proust tout à l'heure. Marcel Proust était-il dans son époque? Je ne crois pas. Si on avait parlé en quelques années avant la mort de Proust, on aurait considéré que Proust était peut-être une espèce de dandy un peu snob qui s'occupait de choses qui ne concernaient personne. Donc l'écrivain prend sa place par lui-même et sans proportion et sans statistique. La littérature n'est pas une statistique, elle n'est pas représentative. Et c'est pour ça que Rougerst peut prendre cette position-là. La littérature, c'est un condensé, c'est un éclairage sur un point très très spécifique. Je sais pas, je pense à une nouvelle de Robert Mouzil. Robert Mouzil décrit très longuement des mouches en train de mourir sur du papier collant, comme ça. Et il ne parle que de ça, ça a l'air de ne servir à rien. Et évidemment, on comprend par analogie qu'il parle de bien autre chose. Donc la littérature n'est pas nécessairement le doigt sur la chose, nomme pas nécessairement. La littérature dit la chose sans la nommer. Parce que parfois, le nom est comme un coup de tambour qui détourne l'attention. Le nom peut être dangereux. Par exemple, il y a un texte dans la revue d'Oriane Jeancourt-Galignani sur l'arrivée au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle de 2002. Jamais son nom n'est prononcé, jamais le nom de son parti n'est prononcé. Tout est fait de manière analogique et métaphorique. Et c'est peut-être plus fort.
Alors il y a plusieurs textes dont on va parler. Effectivement, les élections de 2002, il y a la manif anti-CPE, il y a des choses qui me semblent, ou la mort de Césaire en Martinique, les subprimes, la mort d'Alexander McQueen, dont on va dire deux mots. Alors ce qu'il n'y a pas, c'est une des choses qui m'a frappé. Il y a rien sur le terrorisme en France. Les années 2012, 2015, 2016, curieusement, ça n'a frappé aucun des écrivains qui sont intervenus.
Écoutez, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Aucun ne l'a choisi, en effet. Aucun ne l'a choisi. Les attentats du Bataclan n'ont pas été choisis. Ouais. Peut-être aussi. Enfin, j'ai passé commande des textes, cette revue est apparue il y a un mois, j'ai passé commande des textes il y a un an et demi. Oui. Il faut pas oublier qu'il y a un an et demi, la littérature sur le Bataclan, ça ne manquait pas. Il y a infiniment de romans. Je suis pas en train d'essayer de défendre qui que ce soit, mais peut-être d'expliquer. Il y avait beaucoup de romans à ce moment-là qui avaient paru, les attentats, ça existait, donc peut-être que certains d'entre eux se sont dit, ça va, c'est déjà beaucoup traité. Non, n'en parlons pas, je pense pas que le terrorisme soit absent du roman contemporain.
Non, certes pas.
Mais donc peut-être que c'est une raison. Je n'en sais. Je n'ai demandé à aucun des auteurs de se justifier, de me dire pourquoi tu as choisi ça et pas ça.
Non, mais c'est une réflexion. Nicolas Hidier a fait un texte sur le lancement de la société. C'est le seul texte qui concerne la Chine et qui c'était peut-être un des plus contemporains en fait à mon sens. Lancement de la société d'harmonie en Chine, qui était une vraie nouvelle, qui met en scène un personnage dont on ne sait même pas vraiment s'il est astronaute ou s'il rêve de le devenir, qui vit avec sa mère et qui oscille entre l'idéal d'harmonie tel qu'il est vendu par la propagande chinoise et la nécessité de d'aller dans l'espace éventuellement pour jeter des bombes sur le Japon, et sa mère chez qui il vit et qui commence à prendre en grippe et qui commence à envisager qu'elle est un ennemi du peuple. C'est pas mal parce que c'est très crédible.
D'abord, il y a une chose, c'est que Hidier a vécu en Chine, il sait très bien de quoi il parle. Oui. Et moi, j'ai trouvé que c'était une nouvelle. Et voilà, c'est pas très facile de parler du totalitarisme, parce qu'en réalité, le sujet, c'est ça.
Oui, bien sûr.
Le sujet, c'est le totalitarisme, et c'est très difficile en matière de fiction. Voilà un mot, totalitarisme, et qui d'ailleurs n'est jamais employé dans la nouvelle d'Hidier. C'est montré par des détails et des petites choses, et ce que sa nouvelle, à mon avis, a de plus frappant, c'est ce côté doux, sucré, comme anodin, des choses que ce type pense et qui lui sont imposées, et qui ne voit même pas l'atrocité qu'il y a dans le programme du gouvernement chinois qui s'appelle « Lancement de la société d'harmonie ». Enfin, quand un gouvernement parle d'une société d'harmonie, on peut trembler. Lui, non, c'est comme ça, il le discute parce que c'est là. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, probablement, l'acceptation se fait parce que c'est là, et c'est toujours comme ça. C'est là, on accepte, on le discute.
C'est un des textes qui me semble le plus en écho avec aujourd'hui, peut-être à cause de la pandémie probablement, et à cause de cette espèce d'offensive diplomatique de la Chine.
Aussi,
il y a beaucoup de choses.
Le dernier texte est sur la pandémie même. C'est une nouvelle, est une fiction sur le virus et qui montre un personnage qui s'en va dans une sorte d'exode comme ça parce qu'il doit aller retrouver sa mère morte et qu'on l'empêche d'enterrer, ce qui est d'ailleurs une des conséquences du virus assez fatale. Enfin, l'interdiction des enterrements a été une chose anti-civilisée les plus frappantes, et où le personnage qui traverse la France en autoroute assiste à une scène comico-tragique où une espèce de fou criant à la Akbar arrache des masques dans une station-service et les flics arrivent et ça dégénère. Et c'est un peu la société contemporaine, ça aussi. C'est aussi ça.
Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, Ali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache.
Alors il y a deux textes sur lesquels je voudrais m'arrêter une seconde. C'est le texte de Loïc Prigent sur la mort d'Alexander McQueen et le texte de Victor Cohen
sur la Vaporwave.
Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il y a certains textes par hasard se recoupent plus ou moins. Et celui d'Alexander McQueen, sur Alexander McQueen est assez fort. C'est vraiment un texte qui décrit les défilés de McQueen et sa mort. Enfin, c'est un texte sur la mort, en fait.
Sur la mort, oui.
Et pas seulement sur la mort de McQueen. C'est un texte sur la mort envisagée par McQueen, y compris la mort il y a une dimension apocalyptique dans ce texte.
Oui. Préjean a très bien montré ça, le côté autodestructeur de McQueen, et c'est aussi un texte sur comment un outsider entre dans une société archi-codifiée comme l'est la mode, et au fond, comment un artiste survit dans le monde contemporain. Et c'est ça, moi, qui m'a paru le plus fort dans ce texte-là, qu'il mêle d'ailleurs, qui est du récit mêlé de phrases même d'Alexander McQueen, et qui montre comment la violence s'applique à l'art. Et c'est intéressant parce que la mode est évidemment un art ultra-capitaliste, puisqu'elle est soumise à des considérations d'argent terribles. Et donc, un artiste s'opposant à ça dans le monde contemporain est une chose vraiment, vraiment frappante. Et c'est d'ailleurs assez déchirant. Et quant au texte de Victor Cohen, c'est un jeune écrivain. J'ai pour principe dans la revue de toujours faire signer un jeune écrivain qui n'a pas encore publié. Dans tous les autres numéros, il y en a eu un. Et lui décrit de manière un peu comme un space opéra, comme ça, la naissance d'un style musical qui est la vaporwave.
Oui, mais c'est ce qui est intéressant dans les deux textes, c'est le rapport aux déchets. Quand Luc Prigent décrit le défilé de 2009, du 10 mars 2009, qui s'appelle Horn of Plenty, défilé donc d'Alexander McQueen, il décrit ça, il décrit le public a pris place autour d'une montagne de déchets, un bûcher calciné, le premier modèle apparaît, les lunettes de soleil, le tailleur couture exagéré, singé, les mains sur la taille comme dans les défilés haute couture, mais les proportions du chic classique à la française semblent avoir dégénéré. Un abat-jour plumé, un chemisier sac poubelle, toute la peau gantée de cuir, etc. Et ça continue. Horn of Plenty est une charge contre la société de surconsommation. Mais c'est pas tellement l'aspect charge qui est intéressant, c'est l'aspect beckettien, l'aspect ouais. La mode se transforme en ode en illustration d'une forme de déchet érigé en conditions presque existentielles, quoi.
Oui, c'est vrai. Ce défilé avait effectivement l'air un peu de mini dans son monticule dans Oh les beaux jours. Ce qui est intéressant dans Alexander McQueen et ce qu'il a représenté, c'est ce rapport à ce qu'on a appelé le trash dans la mode. Et jusqu'à lui, le trash, c'était un truc élégant. C'était fait par Galliano, par des gens comme ça, et c'était en réalité un embellissement très Marie Chantal de la pauvreté pour exciter les riches. Or, Alexander McQueen, lui, c'était un fils du peuple qui avait une vision politique très assurée de son métier et qui faisait des choses très violentes dans ses défilés parce qu'il était indubitable que ça n'était pas fait pour plaire et qu'effectivement il disait à la fois à ces gens vous dépensez des millions mais regardez voilà la destinée de ça. C'était peut-être le seul couturier qui était un moraliste.
Et ça recoupe un peu le texte de Victor Cohen, qui est un dialogue, en fait. C'est effectivement un texte sur la naissance d'un genre musical, mais c'est sous forme de dialogue entre Helios et Ramona. Et Ramona dit, nous sommes là pour traiter. Je suis une station d'épuration. Nous sommes là pour recycler le rêve passé dont nous sommes l'éveil. Il y a un continent de plastique à dissoudre. Les encombrants des époques passées ne sont plus biodégradables, etc., etc. Ton marbre, ta bonne tête et notre scaphandre pour survivre dans cet océan asphyxiant, la combinaison anti-Ebola qui nous permet de nager, la brasse dans les abîmes, dans l'ingénuité de nous ébrouer comme écho, le dauphin dans ses marées noires de bandes VHS, de vinyle, etc. etc. Donc il décrit la même chose en réalité.
Il décrit la même chose, mais c'est une nouvelle qui en rejoint beaucoup d'autres parce qu'il y a une tonalité d'ensemble qui est sur la division, la séparation et la destruction. Il y a par exemple une nouvelle que je trouve très bien de Claudine Singer sur l'extinction des espèces animales, où elle décrit une vieille dame indigne comme on n'en fait plus et qui se moque de tout. Il y a, on l'a évoqué tout à l'heure, le texte de Sandrine Planner sur les incendies, qui est quand même très frappant et avec cette idée que le mari de la narratrice est mort et qu'elle l'a incinéré et que le destin des hommes sera peut-être d'être incinéré de force si tous les incendies se multiplient. Il y a un texte...
Et le temps aussi, parce qu'elle décrit un incendie en 49, un incendie en 2000. 2013, oui. et l'ouragan Sandy sur la côte Est. Puisque ça se passe aux États-Unis, il y a les incendies sur la côte Ouest et l'incendie.
Et d'ailleurs, c'est là que moi j'ai appris, je ne savais pas que le Centre des eaux et forêts américain a été créé à Missoula, parce qu'elle décrit justement cet incendie de 1949 qui s'est passé là. Voilà d'ailleurs un cas d'imagination, parce que la nouvelle et la revue est parue au moment où les nouveaux incendies américains se sont déclarés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'imagination, c'est une déduction. Mm-hmm. C'est une déduction. Et c'est ce qu'a fait Sandrine Trenner. Et il y a aussi un texte sur le séquençage du génome.
Du génome, oui.
Et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles montrent cette idée de division de l'humain en petits morceaux, en petits cubes qu'on a du mal à rassembler. Enfin, d'ailleurs, la littérature n'est pas là pour faire des programmes et pour proposer. Il n'y a pas de texte militant là-dedans et elle n'est pas faite pour ça. Mais moi, je suis assez frappé de voir ce morcellement et cette acceptation ou cette constatation du morcellement de tout.
Mmh. Et aussi, enfin, c'est le sentiment que cette idée qu'on patauge dans les déchets du siècle passé et que en fait le XXIe siècle n'arrive pas complètement à se fonder comme siècle, si je puis dire. On est c'est cette idée d'une décharge à laquelle on est, qui est à la fois idéologique, économique, écologique bien évidemment. On est paradoxalement on ploie sous l'héritage du siècle passé et en même temps dans l'oubli complet de ça.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est, si on compare au début du XXe siècle, si tant est que le XXe siècle soit né en 1918, c'est venu après, Dieu sait, une période de destruction, et s'est en suivi un désir de construction et de création perpétuelle. Là, dans cette revue, dans ce numéro, le seul texte qui décrive une chose positive et de construction est un texte d'Adrien Goetz sur le viaduc de Millau, où on voit un ouvrier construire ce viaduc. Et c'est le seul. Et effectivement, on dirait, au fond, tout ça, c'est des désirs de prendre les choses. J'ai un peu l'impression que nous vivons un moment qui n'a pas le désir de construire et qui est dans un désir d'assumer justement la destruction, la séparation, l'isolement, la fin peut-être d'un... Après tout, nous sommes des Occidentaux. Et peut-être que nous subissons depuis 20 ans les conséquences de cet effondrement des tours qui ont été, tout le monde en a vu le symbole tout de suite, mais c'était bien plus qu'un symbole américain et c'était plus que le centre du commerce international qui s'effondrait. Tout d'un coup, ces tours qui se sont effondrées avec une espèce de dignité désolée, comme ça, c'était peut-être bien plus que l'argent et que l'Amérique.
C'est certainement la fin d'une croyance dans une forme de libéralisme au sens politique du terme, pas seulement libéralisme économique,
oui.
Mais le libéralisme au sens anglo-saxon du terme.
Oui, et même plus que ça, peut-être d'un désir enjoué d'aller de l'avant, on construit, on fait des choses. Et ça m'était arrivé, ça y est d'ailleurs, il y a quelques années, moi j'ai publié par hasard un livre de poèmes en septembre 2001, et dans un des poèmes évidemment écrit avant les faits, j'avais imaginé l'effondrement des tours jumelles. Alors, quelques journalistes m'avaient dit quelle prophétie, mais il n'y a aucune prophétie dans la littérature. Encore une fois, c'était une déduction. J'étais à New York un jour à Battery Park, j'ai vu ces tours et je me suis dit qu'à l'insolence, les tours du commerce mondial, si quelqu'un qui est l'Amérique attaque et veuille attaquer, il attaquera là, mais ça n'a rien de si exceptionnel. Et c'est ça à quoi la littérature peut servir aussi. Christ at his moment of doubt and pain. I made damn sure that